La morgue. Bien que cela ne fût pas un sobriquet apéritif et ragoûtant, nous avions baptisé du nom de morgue la crèmerie vague où quelques étudiants, poètes et moi, prenions notre maigre pitance journalière. Le patron de la morgue, un robuste auvergnat qui s'appelait Brifouillanque, semblait posséder une très stricte notion du peu de comestibilité de ses produits alimentaires, car il nous les dosait avec la plus louable parcimonie. Quant à ses vins, c'était sûrement pour en atténuer la redoutable toxicité qu'il les allongeait d'eau fangeuse, peut-être, mais si diluvienne. Qu'importait ? On avait 20 ans et des estomacs à faire rougir les autruches de M. Geoffroy Saint-Hilaire. On absorbait des bœufs dont les tranches eussent été mieux utilisées à blinder nos forts de l'Est, et l'on entonnait des fucines arsenicales comme l'arsenic lui-même. Et cela sans le fantôme du moindre dame. De son vrai nom, la morgue s'appelait Crèmerie Dupuytren. Non pas que Dupuytren l'eût créé lui-même à ses moments perdus, mais parce que le fondateur de l'établissement avait cru devoir honorer la grande mémoire du célèbre chirurgien. Ce nom de morgue était venu à la suite de la double clientèle d'un Écossais et d'un Égyptien. Peut-être que vous ne saisissez pas le rapport. Laissez-moi finir. L'Écossais, Mac Abbey. L'Égyptien, Maca Bey. Nous nous étions dit qu'il suffit de 2 Maccabées pour constituer une morgue, et voilà comment, sans parti pris contre Dupuytren pourtant, nous avions fait moralement disparaître son nom glorieux d'une enseigne connue. Que la grande ombre de Dupuytren pardonne à ces anciens jeunes fous. À la morgue venait, presque tous les jours, une grande mince jeune femme blonde à laquelle on disait « Bonjour Clarisse » quand elle arrivait pour déjeuner, et « Bonsoir, Clarisse !» quand elle s'en allait, ayant dîné. Dans le premier cas, Clarisse répondait « Bonjour !» Dans l'autre, elle concluait « Bonsoir !» Au premier abord, l'aspect de cette Clarisse n'offrait rien de spécial, si ce n'est un développement considérable du système pileux. Ses cheveux, jamais je n'en vis tant sur la même tête, se plantait très bas sur le front, s'allongeait au long des oreilles, en manière de petit favori, et toisonnait sur la nuque plus bas qu'il n'est d'usage. Sa lèvre supérieure s'estompait d'un duvet infiniment léger, mais tout de même qui faisait un drôle d'effet, et ses sourcils bien dessinés, trop fournis et se rejoignant presque, lui mettaient du dur dans la physionomie. Clarisse n'avait jamais qu'un amant à la fois, mais elle en changeait souvent. Voici comment la chose se passait. Les premiers jours, Machin, le nouveau de Clarisse, triomphal, heureux. Le monsieur qui ne s'embête pas, quoi. Peu de jours après, Machin moins apothéotique, un air si las, pauvre Machin, pensais-je. Et puis, un matin, Clarisse seule. Bonjour, Clarisse. Bonjour. Et Machin, qu'est-ce que tu en as fait ? Il était très fatigué. Il est allé se remettre dans sa famille. Une semaine ne s'écoulait pas sans qu'un nommé chose eût brigué et obtenu la succession du pauvre Machin. Peu de jours après, la famille chose éplorée recevait dans son sein son jeune membre amaigri, fatigué. Oh, surmenage intellectuel, c'était bien de tes coups. Quelques Machins et pas mal de choses étaient allés, dans ces conditions, se retremper en leur vivifiante province quand un jour, après le café, Brifouillanque me retint au moment où j'allais me retirer. Il avait l'air tout bête. « Vous allez peut-être vous fiche de moi, » dit-il. « Allez toujours. Je vais me marier. »« Avec ?»« avec Clarisse. Un silence de stupeur plana un instant. « Vous ne savez donc pas, repris-je. Si, je sais, mais moi, vous savez, je ne suis pas un de ces petits jeunes gens. » L'aventure me parut si drôle que j'encourageais vivement Brifouillanc dans son étrange projet. J'éprouvais même de pures délices à être son témoin. Toute rose, émue, rougissante, Clarisse fut une mariée exquise. L'adjoint qui opérait ce jour-là louchait terriblement. Brifouillanc rayonnait. Il rayonna 15 jours, pas plus. Une grande lassitude le prit, et comme un insurmontable dégoût de son industrie alimentaire. Il n'éprouvait plus de plaisir à rien, s'affalait à la caisse des heures entières, inerte, incapable du moindre effort. Ses gros bras, sa gloire d'autrefois, devenaient mous et menaçaient de tourner bientôt à la chimère. Pas même le courage de mettre son vin en bouteille. « Ça ne peut pas durer, dit-il, je perdrai ma maison. J'ai un neveu au pays, je vais le faire venir, il m'aidera. » « Quel genre d'homme, votre neveu ?»« Oh, un gars d'attaque !»« Alors, faites-le venir. » Placide, le neveu de Brifouillanc, répondait en effet très exactement à ce court signalement. 20 ans, une nature de montagnard vierge, superbe. Il fit monter à son arrivée une roseur d'admiration aux joues de sa tante Clarisse. Presque tout de suite, Brifouillanc sentit s'améliorer son état. « Ça va mieux, répétait-il, depuis que Placide est chez moi. Je savais bien que ça ne serait rien. » Un matin, étant parti au hall pour faire ses provisions, il s'aperçut qu'il avait oublié son porte-monnaie. Il rentra précipitamment et trouva Placide et Clarisse en un tel état d'intimité et si peu vêtus l'un et l'autre que nul doute n'était permis. Il flanqua une épouvantable raclée à Clarisse et invita Placide à reprendre le premier train à destination du Puy-de-Dôme. De nouveau, sa santé chancela bientôt. C'était le moment des vacances. Avant de partir, je lui serrai la main chaleureusement, disant à part moi, « Voilà un Brifouillanc que je reverrai dans un monde meilleur. » En novembre, à la rentrée, je retrouvai un Brifouillanc florissant comme autrefois, bien qu'un peu mélancolieux. « Eh bien, lui dis-je, ça va mieux ?»« Ça va tout à fait bien. J'ai repris mon neveu. »